Interview.
1 du jour.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, je suis avec Camille, salut.
Salut.
On va parler de cette quinzaine de l'exil, un événement assez ambitieux sur 15 jours qui va arriver dans toute la Drôme, de la vallée du Rhône jusqu'au fin fond de notre DIWA presque. Un peu de contexte quand même, pourquoi est-ce que tout d'un coup, et depuis quelques années même, on a un petit peu des événements comme ça sur l'exil dans le secteur?
Il y a une réalité qui n'est pas si loin de chez nous, qui s'appelle une frontière. Non pas une ligne frontière, mais une bande frontière, qui est dans le Briançonnais, donc une frontière qui est empruntée depuis très 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 longtemps, mais qui est militarisée depuis un an maintenant, et du coup qui est à peu près à 250 km d'ici. Donc la frontière entre Briançon et l'Italie. Il y a énormément de passages depuis un peu plus d'un an et du coup l'État a décidé de bloquer le passage en mettant en place un dispositif répressif assez énorme et très violent. Peut-être que ça part de là. Un peu plus concrètement, ça fait que donc, nous, on n'est pas très très loin à Die et dans le DIWA, et aussi que la préfecture des Hautes-Alpes, du coup, qui est concernée par cette frontière-là, s'arrête à Aspre, donc c'est encore moins loin, et il y a des collectifs qui s'investissent notamment autour de Gap, puisque la préfecture des Hautes-Alpes est à Gap. Dans mes souvenirs, une des premières actions qui a pu avoir lieu, c'est pas directement la militarisation de la frontière qui l'a poussée, mais c'est plutôt le fait qu'il y avait beaucoup de mineurs isolés dans la rue à Gap, puisqu'il n'y avait pas de solution de logement et que ça tombait à un moment qui était au début de l'hiver. Et donc, il y a des collectifs qui ont commencé à se retrouver sollicités en se connaissant dans les milieux un peu entre les Hautes-Alpes et le DIWA et la Drôme, en disant, bon là, il y a un souci, il y a plein de mineurs dans la rue et on a besoin de soutien. Donc, il y a des cantines qui ont commencé à se faire tous les jeudis devant la préfecture de Gap pour nourrir des jeunes qui n'avaient pas de logement, qui n'avaient pas de bouffe, qui n'étaient pas pris en charge par l'État.
Cette répression, elle se limite sur la frontière. Une fois qu'ils arrivent par exemple à Gap, ils sont plus tranquilles, j'allais dire.
Il y a des frontières partout. Ouais. Il y a des frontières dans les gares, les bandes frontières. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que la frontière, ce n'est pas une ligne, mais c'est une bande. C'est 10 km et selon les dérogations qui sont demandées par la France à l'espace Schengen, les frontières peuvent être posées à des points fixes dans toute la France. Un bel exemple, en tout cas, c'est par exemple à Paris. S'il y a des points de contrôle nommés frontières, donc c'est des PPE en fait, sur toutes les gares à Paris, je ne sais plus si c'est 10 km ou 20 km autour, mais en gros, toute la zone parisienne est concernée par la frontière, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, la douane ou les flics peuvent arrêter quelqu'un et le renvoyer directement. Ce qui est compliqué, c'est que c'est soit dans son pays, mais malheureusement, à cause des accords Dublin, le renvoyer directement dans le premier pays par lequel il est arrivé en Europe, puisque les accords Dublin font que les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de demander l'asile en France s'ils sont passés par l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Hongrie avant d'arriver en France.
Du coup, ils retournent souvent en Italie et repassent encore ce col, par exemple, à Briançon.
Ben, pas tout le temps, puisque malheureusement, vu que l'État est très répressif, il y a plein de gens qui n'osent pas repasser la frontière. Les violences opérées à la frontière font qu'il y a des personnes qui disent, moi j'ai entendu en tout cas des personnes dire, c'est pire que de traverser le Sahara. La frontière entre la France et l'Italie. Donc voilà.
Ouais, et puis on a eu quelques cas qui sont sortis un peu partout dans les médias, notamment de personnes qui préféraient tomber de la falaise plutôt que de tomber dans les mains des forces de l'ordre. C'est arrivé un certain nombre de fois.
Je ne sais pas s'ils ont vraiment choisi.
Non,
mais en tout cas,
évidemment.
Effectivement, il y a eu plusieurs cas, notamment là en mai, on a vu surgir ce qui était attendu depuis longtemps en fait et qui est déjà arrivé plein de fois malheureusement à une autre frontière comme à celle de Vintimille, de personnes qui sont mortes électrocutées dans les trains ou tombées sous les rails, tout et tout. Parce qu'à la frontière franco-italienne côté Briançon, il y a eu 3 morts en 3 semaines. Donc il y a eu une femme qui est tombée dans le torrent après une embuscade avec la police et du coup qui a été retrouvée morte le lendemain au barrage. Il y a un homme qui est, enfin un jeune d'ailleurs, c'est un mineur qui est tombé du ravin de fatigue. Et là, certainement à cause de la police, à cause de la frontière en fait, à cause du dispositif frontière, parce que faut se cacher en permanence, il fait nuit, c'est la montagne, il y a des dangers permanents et voilà. Et une troisième personne qui a été retrouvée, on n'a pas pu identifier son corps parce que cette personne a été retrouvée sous la neige, donc ça faisait fait plusieurs semaines, mois, qu'elle s'était retrouvée à mourir de froid dans la montagne.
Le Diwa est aussi une zone d'accueil, on va dire, de ces exilés. Est-ce qu'une fois qu'ils passent dans les Hautes-Alpes, hop, passer le petit col de Cabre ou de Grimone, il y a des arrivées ici. Comment cette connexion s'est faite ?
Ça, je ne sais pas trop. Mais sans focaliser sur le Diwa, on est une nouvelle préfecture, en fait. Et les exilés qui sont enregistrés dans la préfecture des Hautes-Alpes se retrouvent vite face à des administrations qui sont silencieuses, voire maltraitantes. Et comme il y a énormément d'arrivées dans les Hautes-Alpes, les personnes repartent dans différents coins de France pour les majeurs qui, ont le choix, entre guillemets. C'est pas vraiment un choix. Et pour les mineurs, quand les espaces sont saturés dans les administrations, ils sont renvoyés aux quatre coins de la France. Donc nous, on est une préfecture parmi tant d'autres, avec une gestion particulière. Donc les exilés qui arrivent dans le Diwa, je sais pas en fait pourquoi ils viennent ici. Ils viennent ici peut-être parce qu'ils rencontrent des personnes sur leur route, ils viennent ici parce que le train qui part de Briançon, qui va jusqu'à Paris, s'arrête à Valence. Il y a plein de raisons pour lesquelles les exilés arrivent par là. Si on peut faire une petite focale sur la préfecture dans laquelle on se trouve, nous, à Valence, il y a en fait l'État pose des lois et ensuite les régions et les préfectures, les départements sont en charge de les mettre en œuvre plus ou moins sévèrement. Dans la Drôme, malheureusement, les dossiers de demande d'asile sont traités de manière hyper rapide, ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui se retrouvent déportés vers l'Italie et les mineurs sont pris en charge. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que sinon on pourrait vraiment aller très loin.
Préfecture violente, donc.
Sévère. Violente. Je ne veux pas utiliser ce mot à tout bout de champ parce que ce serait une erreur, mais c'est une préfecture qui est sévère. Et justement, on pourra revenir en détail dans les soirées.
Qui applique fort la loi, quoi.
Oui, qui applique bien la loi, qui a décidé, en fait, de passer sous silence, de maltraiter administrativement les gens et de pas mettre en place aussi des choses. On nous dit toujours que c'est très, très cher de prendre en charge toutes ces personnes. Quand on voit les dispositifs qui sont mis en place, déjà au niveau policier, par exemple, c'est infernal. Il n'y a pas de chiffres. J'ai pas de chiffres en tête, mais c'est impressionnant.
Cette quinzaine de l'exil, du coup, on a entendu dans le Diwa, par exemple, des lieux d'accueil qui ont parfois fait des soirées de soutien. On voit donc qu'ils étaient, en tout cas, lieux d'accueil. Cette quinzaine de l'exil va rassembler qui, en fait ? Plutôt des militants comme toi qui se sont déplacés sur la frontière, sur des points de passage, ou des personnes qui sont dans l'accueil de ces personnes exilées ?
C'est varié. Il n'y a vraiment pas un collectif structuré. C'est une quinzaine qui part d'une action spontanée de se dire il y a la question des expulsions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits, des lieux d'accueil, de lutte contre les frontières, mais aussi de soutien aux exilés qui, depuis le mois de mars, sont expulsables. Très proche d'ici, on a vu la fermeture du CAO d'Alex, donc le centre d'accueil et d'orientation qui avait ouvert en 2015.
Un
grand fracas, parce qu'il y a eu une bataille et en fait, le centre d'accueil et d'orientation d'Alex a été fermé sans vraie raison, à part financière, mais a priori, c'est pas vrai, vu qu'il y a un centre d'accueil qui a ouvert à Porte-les-Valence il y a 2-3 mois. Donc, le collectif qui s'est soudé autour de ce centre d'accueil était très. Il y avait beaucoup de solidarité, c'était assez beau. Il y a une école alternative qui s'est montée à l'intérieur du lieu. Il y a vraiment beaucoup de gens qui étaient là pour soutenir pas mal de familles, pour se battre, pour scolariser les enfants. Et puis, il y a eu une réponse froide du préfet qui a exprimé que c'était comme ça et pas autrement. Donc, il y a la notion d'expulsion et expulsion de personnes aussi qui sont contraintes à se retrouver dans des situations administratives clandestines. Et ça, c'est pareil, c'est une réalité en fait, qui opère absolument partout. Et même les militants ou les solidaires, ou les citoyens qui veulent aider, se retrouvent souvent dans des situations où ils n'arrivent pas à... C'est clandestin, en fait, de faire tout ça. Parce que l'État est raciste, l'État est surviolent et à l'intérieur de ça, il y a peu de moyens vraiment pour soutenir. Et quand on regarde les chiffres de l'immigration, on n'est vraiment pas dans des endroits aussi affreux, aussi enfermants, aussi oppressants que ce qu'on nous raconte dans les médias qui sont main dans la main avec l'État et qui ne nous permettent pas d'avoir un vrai regard là-dessus. Donc du coup, les personnes qui s'impliquent dans cette quinzaine de l'exil sont des collectifs, des associations et des personnes, en fait. Et il y a aussi des exilés aussi qui vont proposer de partager leurs histoires. Et ce n'est pas du tout une organisation, c'est ni verticale ni horizontale, c'est spontané. C'est-à-dire qu'il y a des soirées qui vont être prises en charge, par exemple, si je peux citer des personnes, par le collectif Rosa et le collectif Voix Libre. Rosa, c'est un collectif féministe à Valence. Le collectif Voix Libre, c'est une association qui est basée à Saillant et qui, notamment, a ouvert une maison pour les exilés à Vercheny. Il y a le collectif d'Alex, le collectif Alexois de Solidarité, qui était donc... qui est toujours en soutien au centre d'accueil et d'orientation. Il y a l'ASTI de Valence aussi, qui est une association qui est beaucoup plus dans une structure un peu plus institutionnelle. C'est varié. Et il y a aussi des personnes qui sont directement touchées par le fait de dire on n'entend jamais parler les femmes, on va parler des femmes. Voilà, donc c'est très très varié et plutôt hasardeux aussi, puisque à la base, on n'imaginait pas faire 17 soirées.
Qu'on va présenter dans pas longtemps, mais dernière question, quel est le sens de cette quinzaine de l'exil ? Est-ce que c'est un peu plus d'éducation populaire, d'information, des rencontres
C'est tout ce que tu dis. C'est pouvoir se donner la liberté de traiter les sujets en profondeur, puisqu'on n'a pas le temps. On a vu plusieurs soirées dans le Diwa ou dans la Drôme qui traitaient de ces questions avec des discussions, des débats. Mais en fait, il y a une belle frustration, puisque finalement, l'invisibilisation qui est posée par les situations administratives, elle est permanente et on n'arrive jamais en fait, à aller au bout de ça pour être dans une réelle compréhension de ce qui se passe. Et on retombe souvent dans l'écueil accueil. Bah, c'est parce que c'est quelque chose qui est palpable, qui est là, qui est en face de nous. Et du coup, c'est super chouette parce qu'il y a plein de gens qui se mobilisent en donnant de l'argent, en donnant à manger, en donnant des vêtements et en accueillant, en étant famille d'accueil, en se positionnant en tant que tiers digne de confiance pour des jeunes. Bon là, on va un peu plus loin dans l'investissement. Dès que quelqu'un se positionne pour être tuteur ou tutrice d'un jeune, c'est déjà que la compréhension elle est allée un peu plus loin. Malheureusement, on a tous des vies et cette question-là, elle est difficilement compréhensible dans les médias, disons mainstream. Voilà, il faut vraiment avoir du temps. Et c'est ce temps-là qu'on avait envie de se donner aussi en interne avec les personnes qui sont déjà sensibilisées, parce qu'on n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous les mêmes points de vue, on n'a pas tous les mêmes expériences et on a énormément de richesses à se partager entre nous. Donc voilà. Après, il y a la réalité aussi de cette question des migrations qui a pris énormément d'ampleur depuis 2015, je dirais, 2014-2015, et qui est une espèce de crise. Il y a une crise nationale autour de ça. Et c'est se donner les moyens d'être plus nombreux et plus nombreuses pour pouvoir aller plus loin. Et aussi, à quel moment, justement, si notre préfecture est sévère, à quel moment, en fait, nous, on peut dire, ben non, en fait, on n'est pas d'accord et on aimerait bien que ça se passe autrement. Ou alors, si il y a une expulsion qui se fait de quelqu'un qui va se faire déporter en Italie ou dans un autre pays, à quel moment on dit qu'on n'est pas d'accord. Voilà, c'est pour nourrir aussi cette solidarité-là en étant plus conscient et consciente de ce qui se passe. Et je dirais même autre chose, c'est qu'on s'est longuement posé la question du titre. On n'a pas vraiment réussi à savoir quels étaient les bons mots parce que c'est compliqué. On parle d'exil en général. On a besoin aussi de savoir qu'est-ce que ça veut dire parce qu'on emploie des mots comme migrants, migrants économiques, réfugiés, réfugiés politiques. On emploie des mots qui sont aussi des mots de l'État, les mineurs isolés, étrangers. Et le terme d'exilé, de marcheur, de marcheuse, c'est des mots qu'on a besoin de décortiquer à fond pour pouvoir justement se sentir un peu plus maître et maîtresse de ce qui se passe. Et aussi parce que d'une certaine manière, on est un peu exilé des fois nous-mêmes, même si on a des papiers. On est exilé d'un monde dans lequel, quand on le regarde, on ne trouve pas forcément sa place. Et à mon sens, et je parlerai en mon nom et pas forcément au nom de tout le monde, il y a plus que la question des frontières, il y a plus que la question de l'exil, il y a aussi la question de qu'est-ce qui se passe ici en France dans les décisions qui sont prises sur la gestion même de nos vies.
Et puis ça permet de placer une petite statistique que tout le monde peut vérifier, c'est que la France, l'Europe, comme on aime bien la citer, est la première source de flux migratoires dans le monde. On adore partir de nos pays pour aller, pourquoi pas, aux États-Unis, en Chine ou ailleurs. Et on est les premiers à s'exiler.
Exactement. Voilà. Et ce qui est assez fou, c'est que vu qu'on a pas mal... Du coup, au niveau de la frontière franco-italienne, c'est une route migratoire où il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique. Et les Africains sont la population qui migre le moins. À contrario, effectivement, c'est 57%, je crois, d'Européens qui migrent.
À vérifier donc. Alors, cette quinzaine de l'exil, ça commence dès le 27 septembre. Et allez, on rentre dans le détail tout de suite parce qu'il y a beaucoup de soirées. Il y en a 17. Et je pense que ça pourrait être pas mal de parler un peu de toutes.
Ouais, rendez-vous pour l'inauguration, donc jeudi 27 septembre à partir de 20h30, si je ne me trompe pas, à l'Eden, au cinéma L'Eden à Cray. pour la présentation de la quinzaine, puisque les acteurs qui participent à la quinzaine seront tous là et on aura l'occasion justement de revenir sur pourquoi cette quinzaine. Et ensuite, la projection du film « Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu », qui n'est pas un film, mais qui est une captation vidéo d'une pièce de théâtre qui a été qui est jouée depuis 2015 par un collectif belge qui s'appelle Nimis, le collectif Nimis, du coup, qui permet de manière assez juste de rentrer dans plusieurs situations liées à l'exil. Pour exemple, le directeur de Mare Nostrum, qui est un bateau qui surveillait les côtes italiennes, qui vient raconter comment il trouve les gens dans les cales de bateaux après qu'un bateau est chaviré, et du coup, comment ça se passe. Des simulations basées sur des faits réels d'entretien à l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et des apatrides, donc qui traite les dossiers de demande d'asile, les flux migratoires venant d'Afrique, comment ça se passe. Il y a énormément de tableaux comme ça, et donc du coup c'est une pièce qui a été coécrite avec aussi des personnes qui ont fait cette route et qui jouent dans le spectacle. Donc voilà, ça sera le 27 septembre à partir de 20h30, et en plus la compagnie Nimis aurait été ravie de venir, mais ils sont en Belgique et donc du coup ils seront là mais en Skype, donc on aura l'occasion de parler de leur travail par voie intranet
sur grand écran.
Voilà, je vais pas le dire tout le temps, mais en gros toutes les soirées sont en prix libre, donc voilà, même au cinéma l'Eden, ça sera en prix libre et il y aura à manger et à boire, juste à boire.
Bon, pour le manger et pour le boire, vous verrez bien sur le moment. Effectivement, tout est à prix libre. Ça paraissait presque évident d'ailleurs. Et cet argent ira où avant?
Eh bien, c'est autogéré, donc il y a des soirées qui ont besoin de payer des artistes, ouais. En tout cas, ça va permettre de payer tous les frais de la quinzaine, et la totalité des bénéfices sera reversée à des collectifs qui luttent contre les frontières ou en soutien aux exilés, donc des collectifs entre le Briançonnais, l'Italie et ici aussi sur le territoire, Voix Libre, collectif réfugiés solidaires, donc d'Alex, tout ça.
Vendredi
28 septembre à partir de 18h à la librairie La Balançoire à Cray. On aura l'occasion de discuter avec Colline Picot, qui est une auteure de BD grenobloise, qui a écrit, je crois que c'est la troisième ou la quatrième BD qu'elle écrit sur le thème des migrations. Et là, elle vient présenter une BD qui s'appelle De l'autre côté et qui raconte des récits d'exilés maghrébins dans la banlieue grenobloise. Donc là, c'était pour prendre aussi un peu de recul, de distance aussi par rapport au sujet même qu'on a aujourd'hui, nous, sur le territoire. Et Colline Picot, elle est assez chouette parce que du coup, ça fait donc, je dirais, 7 ou 8 ans qu'elle travaille sur ce thème-là. Elle est professeure de français, elle a toute une histoire personnelle aussi.
Première BD, c'était sur son propre exil, enfin disons celui de sa famille de l'Italie à la France, il me semblait.
C'est pas sa première, parce qu'elle en a écrit une avant qui s'appelle Bribes migratoires en 2010 ou en 2011. Et après, effectivement, elle a écrit Disgracia, qui est une BD qui raconte son exil, l'histoire de sa famille. Et voilà. Et c'est une chouette édition grenobloise qui la diffuse, qui s'appelle Le Monde à l'envers. Et du coup, voilà, je pense qu'on aura l'occasion avec elle de discuter de ses différentes recherches et de son travail.
Toutes les partenaires là, que tu as cités, par exemple cette librairie, l'Eden, sont des gens qui sont venus spontanément dans cette création. Il a fallu aller les chercher. On pourrait penser peut-être même qu'ils sont engagés, du coup.
C'est très varié en fonction des lieux. Il y a effectivement eu un appel assez large. Est-ce que vous avez envie d'eux? Et après, il y a eu un tissage qui s'est fait en fait en fonction des personnes, en fonction des connaissances. Je sais pas comment dire. Par exemple, la librairie La Balançoire, c'est vrai que quand il y a des collectes qui sont faites dans la région, la librairie La Balançoire fait partie des points de collecte où on peut déposer des choses. Après, voilà, il y a des histoires aussi d'affinité. Si on connaît un lieu, c'est plus facile d'aller le voir que. Après, il y a eu aussi la volonté d'ouvrir un maximum dans des lieux plus grand public, je dirais. C'est pour ça qu'il y a des soirées qui se passent à l'Eden, des soirées qui se passent à la MJC de Oust. Pour élargir aussi le champ de sensibilisation.
Samedi 29 septembre.
Alors le 29 septembre, c'est du coup à Cray, toujours, hein, là, les 4 soirées d'affilée à Cray. Comme ça au moins c'est clair, on peut venir 4 jours à Cray si on est dans le Diwa, ça fera une petite visite touristique de l'autre côté des montagnes. À Cray, c'est les Guinguettes, donc les Guinguettes, c'est une initiative qui a eu lieu avant l'été, dans un lieu sur les hauteurs de Cray, au Gardette, chez des particuliers en fait. Et là c'est le retour des Guinguettes, et il y a eu une première Guinguette il y a 10 jours en soutien à Bure, et donc du coup, cette guinguette-là du 29 septembre sera en soutien au centre d'hébergement d'urgence pour mineurs, qui est un lieu qui est ouvert depuis un an à Vennes et qui accueille des mineurs isolés. Donc à partir de 11h, il y aura tous les repas sont préparés par les jeunes du centre d'hébergement d'urgence pour mineurs qui viennent aussi participer à l'atelier d'écriture qui sera proposé à partir de 14h. Il y a aussi un atelier couture qui est proposé par le CHUM. Il y aura également un atelier d'écriture parce que le soir, il y a un open mic et que les jeunes du CHUM aussi font du rap. Du coup, voilà. En gros, ensuite, il y a deux spectacles. Il y a la Baraque au Zéro, donc un entresort en caravane qui est proposé par Gilles Rod. Et ensuite, à 16h, un spectacle qui s'appelle Voyage, Voyage, qui est un spectacle en fait, qui a été coécrit par du coup, des personnes avec papier, des personnes en demande d'asile, pour raconter la loi asile et immigration à partir de l'arrivée en Europe, en fait, comment ça se passe. Du coup, c'est un spectacle qui est joué par une douzaine de personnes qui ne sont pas acteurs et qui racontent aussi pour certains leur propre histoire, puisque la moitié des acteurs sont des jeunes mineurs qui sont à Valence ou des amis qui sont là, qui habitent à la maison de Vercheny notamment. À la suite de ce spectacle, on pourra discuter, puisque c'est forcément un spectacle qui donne à rebondir et qui fait se poser des questions, et on pourra discuter tous ensemble. Et le soir, c'est des concerts. Et alors, sur le programme, tous les concerts ne sont pas notés, donc du coup, je ne les ai pas en tête parce qu'il y a deux concerts en plus de ce qui est noté. Donc, il y a un open mic de rap. Ensuite, il y aura Joey Pilgrim, qui est le chanteur de King Tao. Et ensuite, il y a aussi Mama Cholita. C'est la forme réduite, disons, de Valientes Gracias, à Cumbia Féministe. Et je sais qu'il y a deux autres groupes. Il y aura accordéon, violon, voix et un autre groupe qui s'appelle Baladure, mais je ne pourrais pas en parler là.
On passe au dimanche 30.
Dimanche 30, rendez-vous dans les locaux de Radio Saint-Ferréol, partenaire de RDIWA. Du coup, place de la République, donc sur la place de l'église, là, à Cré, au-dessus de l'office du tourisme. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de rencontrer un peu les studios de la radio. Et là, à partir de 4 heures, on va se donner 3-4 heures pour faire un arpentage. Un arpentage, c'est une technique de lecture collective. En gros, on prend un livre, on le déchire. On désacralise l'idée même du livre, on le déchire et à partir de là, on se sépare pour aller lire un peu dans son coin. Donc on n'a qu'une seule partie du livre et ensuite on se réunit pour parler de ce qu'on a lu, de comment on l'a compris. Et c'est une technique assez intéressante qui permet de mélanger ses propres mots, sa propre expérience, donc qu'est-ce que ça nous a fait de lire ces mots-là, avec les mots d'un auteur ou d'une auteure, et ensuite de le partager avec mais toi t'avais le premier chapitre, attends parce que moi j'ai le chapitre 4 et en fait par rapport à ce que tu dis, j'ai compris ça et ça permet du coup de rentrer en profondeur dans des pensées, dans décortiquer un peu la pensée, les recherches des auteurs.
Et tout ça va être radiophonisé ?
Non. Ah. Non. On aurait aimé, mais en fait, on n'a pas mis le bras. Et il y a plein de choses qu'on aurait aimé faire. Non, l'idée d'être à Radio Saint-Fé, c'est vraiment de pouvoir rencontrer aussi des lieux et se retrouver dans d'autres endroits que des endroits habituels.
Et puis ça peut donner envie, voilà, de voir quelques micros. On part de la quinzaine de l'exil on passe au lundi. C'est le 1er.
Ouais, 1er octobre. Ouais.
Et oui.
1er octobre, sur le programme, c'est annoncé à l'Oignon, mais venez boire un coup à l'Oignon à 19h. Mais en fait, ensuite, on migrera vers la salle polyvalente.
À Saillant.
À Saillant, voilà. Donc, 1er octobre à Saillant. Une soirée en deux parties. La première partie, c'est Gilles Rod et Brigitte Burdin qui proposent un spectacle qui s'appelle La terrible histoire de Thomas Sankara. Très chouette. C'est très chouette. Ils sont super. Parce qu'ils arrivent à chanter, à raconter tout en beauté qu'est-ce qui s'est passé avant l'assassinat de Thomas Sankara et comment Thomas Sankara s'est fait évincer par le gouvernement français, voilà. Et ensuite, en deuxième partie, on a lancé une lecture ouverte, donc chacune peut venir avec des textes et des instruments de musique. Il y a déjà des personnes qui nous ont dit qu'ils viendraient. Je sais qu'il y a Doro qui vient de raconter. Il y a aussi un poète qui viendra lire des textes. Et donc c'est assez ouvert, c'est aussi pour se donner la parole au travers de la poésie, des choses qu'on pourra avoir écrit aussi. Peut-être les gens de l'atelier d'écriture du 29 pourront venir lire leur texte le premier. Il y aura à boire.
Comme à chaque fois.
Ouais, c'est ça.
On est mardi 2.
Alors mardi 2, rendez-vous à Heure. À Heure, l'écocite à l'atelier numéro 8. Donc c'est en face de la gare à coulisses. C'est une maison d'édition qui est là-bas. Et on, là, c'est le collectif Alexois de Solidarité qui propose du coup des lectures de poètes, de textes de poètes et de poétesses qui ont travaillé pour le recueil qui va sortir en soutien au collectif qui s'appelle Il devrait y avoir encore une heure avant l'aube aux éditions Buzot et qui sera vendu à ce moment-là donc au, en soutien au collectif. Et après, c'est pareil, s'il y a des gens qui veulent venir avec des textes, c'est une soirée où on va se partager des écrits.
Le 3.
Alors, le 3 octobre, on est à 10.
Ah.
On est à 10 à partir de 19h. On sera à la Chaudière.
Voilà. Montée des usines.
Merci. Et du coup, c'est une soirée autour de la France-Afrique. En trois parties, disons. Une première partie avec un spectacle, en fait, qui n'est pas vraiment un spectacle, mais qui est vraiment une écriture collective qui a été faite autour de la question de la France en Afrique et de l'Europe aux frontières. Là, j'ai du mal. Votre honneur, c'est le tribunal de la France coloniale, en fait. Voilà, donc c'est l'idée de manière ludique de pouvoir énoncer les arguments du pouvoir et les arguments du contre-pouvoir dans le cadre d'un tribunal populaire qui va venir juger justement cette France coloniale et cette Europe frontière.
Le public sera ce tribunal populaire.
Et on est télé, c'est retransmis en direct sur TF1. Et du coup, le public pourra voter en direct pour la France coloniale ou contre la France coloniale, se positionner du côté du pouvoir ou du côté de la société civile. Et voilà. Et du coup, ça sera l'occasion de pouvoir discuter sur autour de ce thème de la France-Afrique et de qu'est-ce qui se passe en fait au pays, dans les différents pays. En tout cas, là, on a des personnes qui viennent du Cameroun, de Guinée, de Côte d'Ivoire. On a pas mal d'Africains qui viennent des anciennes colonies françaises qui sont en fait toujours sous le joug de la France pour plein de raisons dont on pourra parler ce soir-là, mais notamment parce qu'il y a énormément d'entreprises françaises qui sont là-bas, parce qu'il y a des accords qui sont passés depuis l'indépendance entre la France et les pays africains, parce qu'il y a encore le franc CFA, plein de raisons.
Parce qu'il arrive encore des terribles histoires à des gens comme Thomas Sankara.
Oui, malheureusement, et après il arrive aussi beaucoup d'histoires silencieuses, oui, puisque les Biya, parce que Ouattara, tous ces dirigeants africains, en fait, on les entend peu parler dans les médias, mais en fait, il y a aussi tout ce qui se passe concrètement au pays qui vient questionner l'exil même, enfin la notion d'exil même, quoi. Donc c'était important en tout cas pour nous de pouvoir rentrer aussi, de prendre du recul, pas juste être dans une dénonciation, mais être dans une de comprendre les réalités. Du coup, voilà, ce soir-là, il y aura plusieurs personnes qui seront là pour témoigner de comment ça se passe au pays ou pour raconter un peu où est-ce qu'on en est aussi aujourd'hui en 2018. Et ensuite, c'est Gangla Band, c'est une formation Obscur Jafar, qui est un rappeur, qui normalement ils sont une douzaine, mais avec beaucoup de musiciens du Burkina qui ne peuvent pas avoir leur visa pour venir en France. Donc là, c'est une formation à 3 ou à 4. Désolée, Gangla Band, j'ai pas ça en tête, mais qui viendront nous faire un concert, voilà. Et eux, avec leur association, ils font un travail croisé entre la France et le Burkina et le Sénégal. Ils viendront aussi avec une exposition sonore qui est le fruit de leur voyage au pluriel, parce qu'Obscur Jafar est burkinabé, il me semble, et il est en France depuis une dizaine d'années, et du coup il va au Burkina et au Sénégal pour faire des ateliers autour de la musique, être sur le terrain, discuter, puis lui aussi pourra avec ses copains musiciens nous raconter comment ça se passe, quelles actions ils font avec leur asso.
Ça, c'est donc toujours sur à la Chaudière. Jeudi 4 octobre.
Alors jeudi 4, on se retrouve à Oust-sur-Scie à partir de 19h. Et là, on va rentrer dans le fond du sujet de la frontière, mais plutôt des frontières. On se retrouvera à la MJC de Oust, MJC Ninichèze, pour une table ronde autour des frontières. L'idée étant de justement ce que je disais tout à l'heure, de sortir de l'écueil aidant, trouver une position en fait et se questionner ensemble sur qu'est-ce que c'est que le principe même de frontières. Voilà, c'est une discussion qui va se faire en fonction des gens qui sont là aussi, parce qu'il y a des intervenants qui viennent.
Pas d'experts.
L'idée, c'est de pas être dans une position verticale et justement de pouvoir se rencontrer au travers de qu'est-ce que ça veut dire pour nous la frontière et qu'est-ce que c'est vraiment une frontière et quelles sont les frontières. Donc on pourra parler justement de la frontière dans le Briançonnais, faire un état des lieux puisque c'est chaud, en ce moment c'est chaud. Mais on pourra aussi parler de la frontière de Vintimille, on pourra aussi parler des frontières administratives quand on va à la préfecture, on pourra aussi parler des centres de rétention. En fait, ça va dépendre de comment on s'oriente ensemble. C'est pas une discussion qui est figée. D'où l'idée d'une table ronde qui prendra une forme, je vous le dis pas tout, mais qui prendra une forme plus participative, parce que l'idée justement c'est de sortir de ce truc position unilatérale, je connais, je t'apprends, ou j'ai des papiers, je t'aide, donc de sortir de ça. Voilà, donc à la MJC Nini Chaise à partir de 19h à Oust-sur-Scie.
5 octobre.
Alors le 5 octobre, c'est à Saillant, à la salle polyvalente, c'est à partir de 19h et c'est un exposé théâtralisé sur l'entreprise Frontex, qui est l'entreprise financée par l'Europe.
Police aux frontières, militaires aux frontières.
Ouais, c'est l'organe qui englobe tous les dispositifs de contrôle aux
frontières. C'est le mur là.
Ouais, c'est ce mur, mur visible ou invisible, qui est largement financé à coups de millions et de milliards d'euros par l'Europe. Et du coup là, c'est une équipe de Grenoble Blois qui mène cet exposé depuis longtemps, parce que moi je me souviens que je l'ai vu il y a 4 ans déjà, des équipes qui changent et qui mettent à jour régulièrement leurs infos et qui proposent du coup de revenir sur le contexte actuel qui donne ce poids en fait là. Il y a une énorme frontière qui se pose autour de l'Europe quoi. Donc c'est dense, c'est 2h30 d'exposé. Avec aussi des images, du chant. Je pense qu'il y aura un peu des gens de l'émeute qui seront là pour venir, participer, aérer un peu. Et voilà. Et du coup, on parlera de l'identité nationale, on parlera de l'externalisation des frontières, qui est aussi un énorme flou intersidéral sur lequel on pour avoir des infos, il faut vraiment se coltiner. Mais l'externalisation des frontières, pour faire rapide, c'est que les États membres de Schengen financent des pays comme la Libye ou le Niger et financent largement, mais vraiment les chiffres sont impressionnants, la Turquie, l'Égypte, pour
tamponner un peu.
Ah bah pour carrément empêcher les gens de partir. Et quand on sait ce qui se passe au Niger ou en Libye, c'est vraiment questionnant parce que l'État est larmoyant quand on parle aux infos des tortures et
des esclaves modernes.
De l'esclavage moderne entre ces pays-là, mais en fait l'État finance, l'État forme, tous les policiers au Niger sont formés par Civipol, qui est l'organe du ministère de l'Intérieur français. Voilà, il y a des réalités aussi. Bon, ça sera transversal sur plusieurs soirées, je pense, j'espère en tout cas. Mais en tout cas, l'équipe de Confrontières, du coup, puisque c'est comme ça que s'appelle l'exposé théâtralisé, qui aura lieu le 5 octobre à la salle polyvalente de Saillant, à partir de 19h, nous permettra de rentrer vraiment dans le fond du thème.
Et puis c'est bien d'apprendre un peu qui est acteur de quoi à un moment donné, parce que ça permet d'être un peu moins brouillé
sur
le discours officiel. Voilà.
Oui, et puis notamment, ça permet aussi dans nos vies quotidiennes de pouvoir se questionner sur même nos propres modes de consommation, parce que si on sait que Carrefour collabore avec tout ça, peut-être on se questionne derrière sur est-ce qu'on continue à aller chez Carrefour.
Par exemple,
c'est un exemple.
Vous découvrirez donc si Carrefour est votre ami ou pas. En attendant, on attend notre argent, Carrefour, puisqu'on vous a cité. On passe au samedi 6 octobre.
Alors, le 6 octobre, on se retrouve à Portes-les-Valences, au local SNCF, dont l'adresse est notée sur le programme. Et donc, du coup, la soirée s'appelle « Cacher ces migrants que je ne saurais voir ». Belle Maxime, c'est Molière, je crois, ou Marivaux. Une soirée autour de l'invisibilisation. Donc en gros, autour des sans-papiers, de toutes les personnes qui sont dans des situations précaires et bancales, et comment en fait les structures en France ne protègent pas du tout ces personnes-là. Voilà, à partir de 17h, l'idée c'est de donner la parole. C'est-à-dire il y aura des témoignages aussi, des réalités qui sont vécues au quotidien aujourd'hui à Valence. La soirée sera traduite en plusieurs langues parce que effectivement, on parle beaucoup de l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique francophone, mais il y a aussi des personnes qui viennent d'Afghanistan, d'Irak, du Pakistan qui seront là pour témoigner.
Du témoignage, ça peut être rude, trash peut-être.
Je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée c'est justement de sortir de cette invisibilisation et aussi de parler ensemble de ces réalités-là avec des collectifs qui eux-mêmes se retrouvent en fait. Des fois se substitue au rôle de l'État, parce que l'accompagnement qui est obligatoire, c'est nos principes fondamentaux des droits de l'homme, c'est ça, même quand c'est posé, l'État malheureusement est loin des réalités et du coup n'accompagne pas les gens. Il y a des mineurs qui se retrouvent dehors, il y a des mineurs qui se retrouvent non scolarisés, qui attendent pendant des mois et des mois. Les mineurs à Valence, ils ont des tickets repas pour aller chez Flunch, donc ils mangent chez Flunch deux fois par jour. Est-ce que en fait ça c'est mettre en protection des gens? Et on pourrait dire que c'est infime en fait, mais non, parce que ça revient dans la plupart des relations en fait avec les administrations et les institutions. Et ce sont souvent les citoyens et les citoyennes qui se retrouvent en fait à pallier à tout ça. Donc là, le collectif Rosa et l'association Voix Libre sont directement en fait des témoins de ce qui se passe, puisqu'ils viennent en accompagnement à tout ça et ce sont des bénévoles et voilà.
C'est quand même bien dommage de donner à manger à des gens, mais de ne pas les rendre utiles à la société. Hein.
Oui, il y a bien plus que ça, je pense. Hein. C'est parce
non,
que
c'est une petite pique oui, à bah, tous voilà, ces libéraux qui veulent du fric. voilà, ouais. Faites-les bosser. Non, je dis une connerie.
Non, mais après, voilà, c'est l'intégration, comment, quoi. Ouais. Puis en fait, on est tout le temps malmené dans ce qu'on sait, ah, en oui. fait, quoi. Enfin, je dis nous les blancs là, qui aidons, on est malmenés dans
les
ce qu'on sait ou dans
blancs,
ce qu'on... Ouais. Et après les jeunes, les moins jeunes qui sont en demande d'asile dans des situations ultra précaires, il y a un flou, il y a des impasses permanentes. Là, cet après-midi-là, on pourra peut-être revenir sur des choses qui auront été dites le 4 octobre lors de la soirée autour des frontières, parce que voilà, ce sont des frontières permanentes. Et ça, on peut pas être dans un épanouissement avec ça. Voilà, après, c'est pas noté sur le programme, mais a priori, comme la soirée commence à 17h et qu'effectivement, c'est un sujet super lourd, là, les collectifs, je sais pas trop où ils en sont, puisque je parle au nom d'eux, hein, donc j'espère que je ne transforme pas trop les thèmes des soirées, que je suis proche de tout ça, mais en tout cas, prépareront un repas. Et l'idée, c'est ensuite de pouvoir peut-être soit danser un peu, en tout cas comme c'est samedi soir, soit peut-être se retrouver autour de quelque chose de plus festif pour continuer à discuter, puisque forcément, ça va faire résonner des choses. Et je ne sais pas où ils en sont, mais il y aura possiblement soit un concert, soit un karaoké. Voilà, j'en dis pas plus.
On s'amusera peut-être. Dimanche 7 octobre.
Alors, le 7 octobre, on se retrouve à Chabeuil à partir de 19h pour une soirée autour des femmes. Donc court-circuit à Chabeuil, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est le magasin de producteurs qui ouvre parfois ses portes, puisque c'est l'association L'Arrosoir qui gère un peu l'événementiel dans le magasin. Et puis on change l'espace et on arrive dans une belle salle, il y a souvent à manger, à boire et c'est chouette. Et donc du coup sur le rond-point de la fusée à Chabeuil, et là c'est une soirée autour des femmes, avec des témoignages et puis des lectures de textes aussi autour de ce qui, enfin voilà, du contexte des femmes en exil. Donc on entend peu parler en fait des femmes.
Oui,
on entend souvent parler d'hommes seuls ou de familles.
Même dans les médias, on va filmer que des gars, quoi.
Mais
souvent,
oui,
hein.
C'est complexe la situation des femmes.
Ouais.
Et pour autant, il y a autant de femmes que d'hommes qui partent de chez elles. Donc c'est questionnant parce que.
Est-ce qu'elles arrivent moins?
Ouais, il y a cette question-là qu'elles arrivent moins puisqu'elles se retrouvent dans des réseaux en fait mafieux, les prisons en Libye. Malheureusement, c'est un autre esclavage, c'est un esclavage sexuel qui est assez monstrueux et qui est complètement tue. Et même arrivé en Europe, il y a des réseaux de prostitution qui se créent parce qu'en fait la femme est une chair en fait. Du coup, voilà, il y a une maltraitance aussi. Et l'invisibilisation, elle est aussi liée, je pense, au fait que les situations des femmes sont compliquées. Femmes avec ou sans enfants, les femmes sont maltraitées d'une autre manière. Et je pense que c'est quelque chose qui
quand
est aussi caché par les médias.
Et quand elles partent même du pays, elles sont parfois dans des situations plus complexes que les hommes qui eux-mêmes partent du même pays.
Peut-être. Ça sera intéressant justement de pouvoir creuser le sujet ce soir-là et je pense même que ça mériterait plus qu'une soirée pour pouvoir arriver à savoir vraiment
dans
quel contexte.
Il n'y a qu'une seule soirée sur les femmes.
Finalement. Et oui, mais il y a plein de choses, il y a énormément d'infos
non,
qui peuvent être glanées.
Hein.
Oui, je sais, mais il y a un site, je crois c'est Humans for Women, qui recense aussi pas mal d'infos sur la situation des femmes. Et effectivement, combien de femmes arrivent en fonction du nombre qui partent? Là, moi, j'ai pas les réponses, mais voilà.
Il y a un flou, en tout cas. Ouais. On passe au lundi. Alors, j'ai perdu les chiffres maintenant. On doit être au 8.
Voilà,
lundi 8, c'est bientôt la fin.
Au 8 octobre. Alors, le 8 octobre, ça se passera au lycée à Bourg-les-Valence. Et du coup, c'est une soirée. Il y a une exposition qui a été faite entre deux classes du lycée du Valentin, donc à Bourg-les-Valence, là où on se retrouve. Donc, c'est une correspondance avec des Syriens, Irakiens, Kurdes et Tunisiens qui sont migrants ou réfugiés du coup en Tunisie, en Italie, au Liban, en Jordanie. Et du coup, c'est un échange qui a permis de partager les questionnements du coup dans cette jeunesse en fait qui est pas la même entre les deux. Et il y a une exposition qui a été faite et du coup, il y a un film aussi qui sera projeté qui s'appelle Exil 2.0 qui donc c'est Félix Brassier qui a piloté cette exposition et voilà, on pourra discuter avec lui d'après ce que j'ai compris hein. Là pareil, je me fais la voix d'une soirée que je connais un peu moins, mais on pourra discuter avec lui, il y a un visio-échange avec Félix Brassier qui est au Liban et qui pourra nous raconter aussi lui toute son expérience depuis 2015 du coup il traverse des pays qui sont touchés par les problèmes qui sont liés à la migration et du coup il a ce regard là avec sa caméra sur la crise des migrants durant ses traversées sur la route des Balkans.
Voilà. L'occasion même de rappeler que la plupart des migrations se font par exemple sur le continent africain, le Liban je crois, a doublé sa population. Ils étaient 2 millions, ils sont 4 millions maintenant. Donc, ils ont eu 2 millions de migrants concrètement qui sont arrivés, ce qui n'est pas du tout le cas de la France. Et à l'échelle de ce pays, c'est un peu. Très violent.
Il me semble que c'est un tiers, mais c'est oui, effectivement, puisqu'il y a une frontière avec la Syrie. Mais c'est comme une époque, les Polonais en Iran. Hein. Il y a eu un exil massif des Polonais en Iran. Et c'est pareil, ça n'a absolument pas détruit le pays. Ça n'a pas du tout. Empêcher, au contraire, en fait, il y a plusieurs thèmes qu'on n'aborde pas pendant la quinzaine, mais par exemple, il y a un thème qu'on avait vraiment, vraiment, vraiment envie d'aborder et qui n'apparaît pas, mais c'est la question des travailleurs sans papier. C'est que, en fait, une économie est basée, en fait, sur ces exils-là. Les travailleurs sans papier sont constamment exploités et on entend cette phrase tout le temps, ils vont nous piquer notre travail, voilà, ces espèces de grands schémas.
C'est déjà fait.
Mais en fait, ils font vivre l'économie. Ouais. Et de la même manière que si on n'était pas du coup en lien avec l'Afrique, en fait, l'économie de la France tomberait complètement dans le rang mondial des pays riches, quoi.
On n'aurait même plus d'uranium.
Non, on n'aurait plus d'uranium, on n'aurait plus de manganèse, on n'aurait plus de cuivre, on n'aurait plus de cacao, on n'aurait plus de café. Enfin, je veux dire, il y a un moment où. Pourquoi on disait ça je sais plus.
Pour faire une petite digression voilà, et pour passer tranquillement au mardi 9 octobre.
Mardi 9 octobre, on se retrouvera à L'Oignon, à Saillant, pour une projection d'un film de Frédéric Subel qui s'appelle Transit Zone et qui vient raconter comment se sont passées les expulsions de la jungle de Calais. Voilà, donc c'est un film documentaire qui dure un peu longtemps, je crois, je me souviens plus, mais je sais plus si c'est une heure ou une heure et demie. Du coup, ça sera l'occasion d'échanger aussi autour de qu'est-ce qui s'est passé au moment du démantèlement de la jungle. Et des expulsions de Calais, mais aussi en fait comment on réagit ensemble à ce qu'on appelle une expulsion quelle qu'elle soit quoi. Donc voilà, ça sera l'occasion aussi peut-être de se questionner sur quel poids on peut avoir, qui on est sur en fonction du territoire, c'est quoi notre connaissance de tout ça. Voilà, il y a un peu l'envie de faire ça. À 19h.
Pourquoi les gens ne bougent pas effectivement quand on est témoin de ça à Calais? D'autant qu'en plus la jungle a été détruite et même tout le monde est dans la rue maintenant.
Mais ouais. Et se fait expulser une nouvelle fois, puisqu'à Austerlitz ou à Colonel Fabien à Paris, c'est la merde. Il y a des expulsions permanentes. Et effectivement, c'est questionnant parce qu'on ne fait que déplacer des gens qui sont eux-mêmes déplacés. Puis on déplace ce qu'on appelle le grand problème de l'immigration. On ne le résout absolument pas. Ouais. Donc l'invisibilisation,
oui, ils marchent en rond et puis ils reviennent. Et voilà, ça n'est pas réglé.
Et puis c'est des traumatismes monstrueux.
En plus,
quoi. Et en fait, voilà. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça me fait penser à une. Alors je sais plus quand est-ce que c'était, mais je me souviens d'une jeune étudiante qui s'était retrouvée complice d'une expulsion parce qu'elle prenait l'avion pour rentrer chez elle en Norvège ou en Suède, il me semble. Enfin bref, je veux pas dire de bêtises, mais qui s'était retrouvée complice d'une expulsion parce qu'elle était dans l'avion et qu'elle a vu qu'on amenait quelqu'un menotté pour le renvoyer. Alors je pense que c'était la Suède, puisque la Suède fait partie des premiers pays d'arrivée pour le renvoyer en Suède. Et du coup, en fait, elle s'est levée. Elle a empêché l'avion de partir. Et c'était une réaction qui a permis d'éviter l'expulsion, la déportation de cette personne-là. Et elle a été hyper touchée parce que, en fait, son témoignage est magnifique parce qu'elle a dit « je ne pouvais pas faire autrement ». Et comment, en fait, plus on est conscient de ce qui se passe et plus ça devient vital que si on veut expulser des choses de l'intérieur de nous et être acteur et actrice de ce qui se passe, pour aussi se battre pour nous, en fait, quoi. On peut faire quelque chose.
Un geste qui, au passage, a marqué les esprits, ça fonctionne partout. Si une personne fout le bordel dans l'avion, eh bien l'avion ne part pas. Et ça fait des émules. Là. Ils sont en train d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre comme protocole dans l'aviation pour gérer ce problème-là. Parce qu'il y a plein de gens qui, du coup, ne peuvent plus se faire expulser parce que Il en suffit d'un qui se lève.
Mince alors.
Mais oui, ça...
c'est vrai.
Ah ouais, ce témoignage a fait le tour. Hein,
c'est bien.
10 octobre.
Alors, le 10, on se retrouve à Cray, au café chez Eugène, cours, rue Eugène Arnaud, en fait, au bout du cours Joubernon, à 18h. Et c'est l'idée de se fédérer dans le Crétois pour monter un collectif d'accueil. Bah, d'ailleurs, en fait, on peut parler du 10 et du 11 à l'affilée, puisque le 10, ça se passe à Cray, et le 11, ça se passera à 10. Donc,
avec la même... idée.
Non, enfin oui, c'est la même idée. Après, c'est des fonctionnements différents parce que c'est des personnes différentes qui portent ces deux soirées. Donc du coup, il y a aussi peut-être des états d'avancée différents. A priori, l'idée quand même des deux soirées, c'est de aussi d'être en relation, c'est-à-dire que les personnes du Crétois et du Déois se connaissent, puissent en fait déjà de base s'échanger des infos sur des fonctionnements ou des pistes de réflexion. Et sur ces deux soirées, il y aura des témoignages de personnes qui déjà en fait connaissent les systèmes d'accueil, peuvent échanger des pratiques et voilà. Après, à 10, ça se passera le 11 octobre à 20h30. Sur le programme, c'est noté à l'ESCDD, à l'Espace Social et Culturel du DIWA. En fait, ça se passera à l'Espace Barral, qui est pas très loin de la Chaudière, là. Donc à 20h30. Et là, c'est pareil, il y a des choses qui existent. On a, sur notre territoire, même si on n'est pas sensibilisé, on peut voir qu'il y a des choses qui existent. L'ESCDD pilote des réunions depuis plus de 6 mois. Je pense que la première, c'était en janvier, quelque chose comme ça, autour de quelle accueil sur le territoire. Il y a des gens qui se bougent, il y a des gens qui se rencontrent, il y a des exilés qui sont là, et voilà, qu'est-ce qu'on fait et qui a envie de s'investir. Donc le 10 octobre à Cray, chez Eugène, à 18h, et le 11 octobre à l'Espace Barral à 10, à partir de 20h30.
12 octobre.
Alors, le 12 octobre, ça se passera à Valence, à la Farandole. C'est une soirée qui est proposée par l'ASTI et c'est un spectacle qui s'appelle Bienvenue, Parole de migrants, qui est proposé par la compagnie La Tribouille, qui est une compagnie de Nantes, et qui viendra raconter... c'est une équipe, d'après ce que moi j'ai compris, parce que j'ai pas vu le spectacle, qui a le comédien et le musicien ont fait tout un travail à Nantes de recueil de témoignages, et donc du coup voilà, ils en ont fait un spectacle et ils utilisent ce spectacle comme un outil pédagogique. Ils vont souvent jouer dans des lycées, voilà, dans des structures éducatives, et voilà, c'est l'occasion aussi de discuter avec eux de comment ça se passe.
Du coup, il y aura un vrai temps de d'échange potentiel.
J'imagine que l'idée, c'est aussi de pouvoir partager. Voilà, je sais pas s'il y aura des exilés de Valence qui seront là. J'ai pas plus d'infos, mais voilà, et ça se passera donc le vendredi 12 octobre à 19h à la Farandole à Valence.
Et on arrive sur la dernière soirée, samedi 13 octobre, qui clôture cette quinzaine de l'exil. Et là, c'est la grosse teuf.
Ouais, c'est la grosse teuf.
Faut terminer, quoi.
Faut pas oublier qu'il y a aussi la volonté de récolter de l'argent pour les collectifs de lutte contre les frontières et de soutien aux exilés. Donc on se retrouve le 13 octobre, samedi 13 octobre, à partir de 14h. L'après-midi, il y aura des écoutes sonores, des courts-métrages.
À 10.
J'ai
à
pas
griotte.
Dit.
À la griotte, et profitez-en, parce que la griotte est plus si souvent ouvert, et donc c'est de nouveau une occasion de profiter de ce lieu.
Voilà, donc la griotte à la sortie de Die, en direction de Luc, Châtillon, tout ça, juste sur la droite, après la voie de chemin de fer, mais il faut se garer au Méros et venir à pied. On se retrouve à 14h pour une après-midi un peu variée, multiple, avec toujours, je ne l'ai pas dit, mais il y a des tables de presse qui seront sur toute la quinzaine, qui permettront d'aller plus loin si on veut, en rentrant chez soi, avoir un petit bouquin, une brochure, des t-shirts, enfin voilà, tout un tas de trucs. Donc des écoutes sonores, des projections de courts-métrages, et l'idée de l'après-midi, c'est de se retrouver pour faire des jeux autour du thème des frontières et des discriminations. Donc voilà, il y a des équipes qui préparent aussi, hein, c'est vraiment de la création in situ, pour se questionner aussi en interne sur qu'est-ce que ça veut dire une frontière, c'est quoi nos privilèges, nous, en tant que blancs avec papier, comment on se retrouve à des positionnements complètement différents en fonction de notre couleur de peau, se questionner sur ce principe même de la racisation, et voilà, et qui peut-être aussi des trucs un peu rigolos, où on pourra peut-être balancer des balles de tennis sur la tête de nos gouvernants, je sais pas, en fait, j'ai pas trop d'idées, hein, mais en gros, voilà, on pourra aussi peut-être se retrouver en condition sur qu'est-ce que c'est qu'une frontière, voilà, pas mal de jeux, de l'éduc pop en fait, pour aussi essayer de prendre une position de recul et prendre ça par le biais du ludique, mais en fait pour se faire vivre des choses à l'intérieur de nous-mêmes, de nos émotions, de notre émotionnel. Savoir chaud, savoir froid, c'est un peu l'idée aussi de cette quinzaine, c'est de partager de l'expérience, mais aussi du savoir, savoir chaud, savoir froid. Bref, ensuite, en fin de journée, on aura l'occasion de se retrouver pour une discussion pour faire le bilan de la quinzaine, donc avec les différents acteurs qui ont participé et aussi le public hein, qui a participé, puisque encore une fois, l'idée, c'est d'être ensemble et de ne pas être dans des positions verticales, mais vraiment dans un partage et peut-être envisager des perspectives pour la suite ou peut-être juste se dire, ben voilà, c'était bien, il manquait ça, on aurait aimé ça, voilà, voilà. Et il y aura ensuite deux concerts et un spectacle. Donc le spectacle, c'est Un Cri, c'est Saïd et Steph Waki qui proposent ce spectacle que vous avez peut-être vu, car ce sont des gens du Diwa, hein, du Cru. On est sur du local aussi. Hein. Donc voilà, un magnifique spectacle qui se regarde, qui s'écoute sur l'histoire d'un homme qui raconte sa migration avec toute la poésie qui va avec. Et donc c'est un mélange entre une histoire réelle que Saïd a entendue et puis le bouquin d'Eric Emmanuel Schmitt, Ulysse from Bagdad, et du coup qui permet en fait de rentrer entre la réalité et la fiction dans ce voyage en fait, sur les pas de cet homme qui fuit son pays. Voilà, et les concerts, donc la compagnie Kta nous propose Une histoire populaire et enragée, c'est un concert c'est punk noise, mais avec que des histoires vraies. Donc,
une chanteuse ultra charismatique.
Oui, oh, bah, même le guitariste aussi, il est pas mal, et la bassiste, elle est franchement chouette, ouais, et alors on sait pas qui sera à la batterie, mais l'un ou l'autre, ils sont quand même vraiment sympas.
Ils sont toujours sympas, ouais, c'est vrai.
Voilà, donc on les a déjà vus à la griotte d'ailleurs, donc ça les a fait marrer quand on les a invités, parce qu'ils ont joué pour Sam Casse les urnes en mai dernier. Mais voilà, on s'en lasse jamais de leurs histoires et de leur beauté et de leur fougue, et puis on pourra danser aussi sur du punk. Et ensuite, il y a aussi les frères Parrish qui viendront, qui donc du coup sont pour partie aussi du Cru. Bon, d'ailleurs, c'est un peu du Cru parce que la compagnie Kta, ils commencent à migrer par ici. Ah, attention. Donc les frères Parrish, c'est du rap et c'est marrant et ça la pêche et ça donne envie et voilà. Et c'est des beaux mots et c'est voilà.
Ça sera pour se faire plaisir. Cette quinzaine de l'exil est titrée « À l'heure où » avec une affiche très explicite. Ce programme était très dense, on peut le retrouver sur internet.
Oui, quinzainedelexil.wordpress.com.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
J'ai envie de parler de plein de choses. J'espère qu'en fait les discussions seront variées, qu'on aura l'occasion en fait d'ouvrir notre gueule. Mais dans tous les sens du terme. Le sujet est assez complexe pour que parfois on ait peur en fait, de rentrer dans le sujet, dans la profondeur du sujet. J'espère en fait, qu'on pourra vraiment se dire qu'on n'est pas d'accord sur certains trucs. Je ne sais pas en fait, s'il y a des militants d'extrême droite qui écoutent RDIWA, mais parfois je me pose la question de savoir est-ce que nos actions, c'est juste aller balancer de la farine sur la gueule de Cédric Herrou pour dire qu'on n'est pas d'accord, puisque c'est ce qui s'est passé à Valence la semaine dernière et c'est quand même assez risible parce que le sens est peu palpable. Et à quel moment, on n'est pas dans une bataille de front contre front, mais on est dans quelque chose qui, pour moi, a beaucoup plus de relief. Et dans l'organisation de cette quinzaine, il y a énormément de questionnements, il y aura beaucoup de contradictions aussi. On ne sait jamais vraiment si on prend la parole de l'autre ou si on la vole ou si on la laisse. C'est pas toujours facile parce que pour des personnes, par exemple, qui sont ici en France depuis 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et qui ont traversé le Niger, la Libye, qui ont traversé la Méditerranée, qui ont traversé beaucoup de violences en fait depuis parfois leur plus tendre enfance, c'est pas toujours facile de raconter, de savoir comment raconter. Ça fait partie des réels questionnements, en tout cas en interne. C'était, voilà, est-ce qu'on vole encore une fois la parole d'eux ou comment on arrive à se laisser la place d'eux ? Et j'espère qu'à ce moment-là, on arrivera en fait à parler sans parti politique parce que malheureusement, on se retrouve souvent, certaines personnes peuvent se retrouver à avoir besoin de se cacher derrière une association ou derrière un parti politique. En fait, on est des êtres humains et c'est pour ça qu'on a conservé ce mot d'exil, je pense, parce que l'exil, il est multiple et parfois, c'est pas toujours facile en fait de se retrouver. Voilà, qu'on ait les bons papiers ou pas, on n'a pas tous et toutes les mêmes situations administratives. C'est pas toujours facile de parler de ce qui est à l'intérieur de nous, quoi qu'il arrive. On hiérarchise pas nos histoires, mais il y a des réalités, en fait. Et à quel moment, dans ces différentes soirées, j'ai bon espoir, j'ai envie, j'aimerais, je trouverais ça chouette, au nom de ce qu'on a pu se dire en interne, qu'on rentre un peu vraiment dans le creux de tout ça et qu'on aille plus loin. Voilà.
À l'heure où La quinzaine de l'exil du 27 septembre au 13 octobre. Merci.
Merci Baptiste et à bientôt.
Interview.
Okay, the bird.